Celle qui va venir est donc celle du professeur Bernard Harcourt de l'Université de Chicago aux États-Unis. Son visage vous est peut-être déjà familier, puisqu'il est apparu notamment à la télévision française après l'élection du président Obama pour nous parler de son passage à l'Université de Chicago et sa carrière universitaire. Mais il est aussi et surtout un spécialiste de l'histoire jusqu'à nos jours des doctrines pénales aux États-Unis. Et il vient nous parler, en continuité avec l'intervention du professeur Carlos Petit, de la genèse de la rationalité actuarielle aux États-Unis au XIXe et XXe siècle.
Merci. Alors, la justice actuarielle, la logique, la rationalité, les instruments actuariels dominent le champ pénal aux États-Unis aujourd'hui. L'utilisation d'algorithmes pour prédire l'évasion fiscale, de profils pour déterminer qui fouillait à l'aéroport, l'utilisation d'instruments d'évaluation de risque pour déterminer la rétention de sûreté, mais aussi pour déterminer la longueur de la peine, le type d'incarcération, ainsi que la remise en liberté. Ces méthodes actuarielles colonisent de plus en plus le domaine juridique. L'ascension d'une logique actuarielle aux États-Unis est un sujet riche, avec une généalogie complexe, et mon objectif aujourd'hui n'est pas d'instrumentaliser cette histoire pour en tirer des leçons pour la France, ni de proposer un compte-rendu trop schématique, mais plutôt d'attirer votre attention sur certains épisodes qui ont motivé ce glissement aux États-Unis, d'identifier les forces, les disciplines, les discours, les professions, les désirs, aussi les frictions et les résistances qui ont conduit à la dominance d'une telle rationalité. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que les germes de ce tournant actuariel ont été plantés dans un terreau distinctement américain à un moment très précis, à l'époque d'un mouvement de la théorie du droit qu'on appelle aux États-Unis « American Legal Realism », le réalisme américain, un mouvement de doute au sein de la discipline qui a par la suite miné l'autonomie du domaine juridique. Alors, pour ceux qui ne sont pas entièrement familiers avec cette école de pensée distinctement américaine, il s'agit d'un mouvement qui a essentiellement remis en cause le formalisme de la pensée dite classique, de la pensée représentée par exemple par Christopher Columbus Langdell, le doyen à la faculté de droit à Harvard pendant les années 1870. Ce mouvement dit réaliste, s'efforçait de montrer que les concepts juridiques abstraits, donc la notion de consentement ou bien de responsabilité, ne pouvaient pas dicter de manière neutre ou de manière nécessaire le résultat dans les affaires portées devant la justice, mais que le domaine du droit était caractérisé par un degré important d'indétermination qui permettait donc à d'autres facteurs politiques, psychologiques, d'influencer la prise de décision judiciaire. En cessant de croire que le formalisme pouvait assurer la neutralité du droit, en mettant fin à une conception plus classique d'une science proprement dite juridique, et en montrant comment le droit est en son sein miné par l'indétermination, le réalisme a donné naissance à une atmosphère d'incertitude qui, pour beaucoup de penseurs, pour beaucoup de juristes, était simplement insupportable, intolérable. Bon, je ne suis pas là pour vous dire si la critique réaliste de la pensée formaliste classique a eu tort ou a eu raison. Je suis, de ma part, un réaliste pur et non reconstruit, mais ça n'a rien à faire avec cette histoire. Ce qui importe, c'est que cette tendance au réalisme a nourri un nouveau désir de certitude et a incité la discipline à intégrer, à incorporer, à assimiler les autres sciences, les sciences plus dures, et en particulier les sciences sociales, donc la criminologie et la sociologie. Et c'est ça véritablement qui a marqué le paysage juridique au XXe siècle et qui donc a donné naissance non seulement à la rationalité actuarielle dans le domaine pénal, mais aussi au mouvement « Law and Economics », ainsi que le mouvement Law and Society aux États-Unis et aujourd'hui au mouvement Behavioral Law and Economics, et aussi au nouveau mouvement Empirical Legal Studies à Cornell en particulier. Donc, il y avait à l'époque, au tournant du XXe siècle, un sentiment palpable d'insécurité ou d'infériorité dans le domaine juridique américain. Et on ressent presque un complexe d'infériorité chez les principaux juristes. On l'entend dans leurs écrits, il y avait une impression que la discipline n'avait pas fait autant de progrès que les autres disciplines, que les autres disciplines plus scientifiques. Une impression que l'Amérique était à la traîne de l'Europe, que l'Amérique devait rattraper son retard. On peut en entendre un clair écho dans la déclaration d'ouverture du colloque, ce fameux colloque dont le professeur Petit nous a parlé, The National Conference on Criminal Law and Criminology, qui s'est tenu à Chicago en 1909. Et c'était un colloque qui a vraiment marqué le début du mouvement vers l'intégration des sciences sociales dans le droit pénal. C'est le colloque qui a été organisé par Dean Wigmore à Northwestern, ainsi que les professeurs Ernst Freund et Roscoe Pound à l'Université de Chicago. C'est là où ils ont annoncé donc cette nouvelle ère pour le droit pénal, celle d'un traitement individualisé de la peine qui aborderait les causes particulières de la délinquance pour chaque individu sur une base scientifique. Mais on entend dans ce colloque le sentiment d'être à la traîne. Et voilà ce qu'ils écrivaient, par exemple. Ça, c'est Freund et Pound et Wigmore dans l'introduction du colloque. Tout cela s'est produit en Europe au cours des 40 dernières années. Toutes les branches des sciences auxiliaires ont fait des progrès. L'anthropologie, la médecine, la psychologie, l'économie, la sociologie, la philanthropie, la pénologie. Seul le droit s'est abstenu. La science du droit est celle qui doit bénéficier de tout cela. Donc vous voyez là, c'est une affirmation d'une certaine impuissance, d'une certaine infériorité. Et il était absolument nécessaire, aux yeux de ces universitaires, de dépasser ces insuffisances. Mais là, ceci qui est important, ce sentiment d'insuffisance était lié à l'instabilité qui a été créée par le mouvement réaliste. Donc Roscoe Pound, un des fondateurs donc, du colloque, en 1909, était lui-même le fondateur de ce qu'on appelait à l'époque la jurisprudence sociologique. En anglais, on appelle ça sociological jurisprudence. Un mouvement qui était concurrent du American Legal Realism, mais qui était tout aussi réaliste. Tous deux, donc sociological jurisprudence et American Legal Realism, étaient nés en réaction contre la théorie classique du droit du XIXe siècle. Tous deux mettaient en exergue ce décalage entre la pensée formelle et les résultats concrets, mettaient en exergue les insuffisances de la pensée formelle pour traiter de manière satisfaisante les cas portés devant les tribunaux. Tous deux cherchaient autre part pour résoudre cette indétermination du droit. L'histoire du développement actuariel aux États-Unis est donc l'histoire d'une volonté de savoir dans un domaine juridique, je dirais, déconstruit ou fragilisé par le refus du formalisme, par un certain désenchantement devant le formalisme. Et c'est précisément ce refus de l'autonomie, d'une conception d'un droit comme discipline autonome et du champ juridique comme champ clos sur lui-même qui a poussé la discipline dans le giron des économistes et des actuaires. Alors, dans cette courte présentation, je vous propose de faire deux choses. Dans un premier temps, j'aimerais donc retracer le parcours depuis la fin du 19e, début du 20e, en m'arrêtant sur quatre moments qui ont contribué à produire la justice actuarielle. Le premier moment, au tout début, c'est ce fameux colloque de 1909 à Chicago, donc un moment clé pour les juristes et les professeurs de droit. Le deuxième moment se situe pendant les années 1920. C'est une période d'innovation et d'exploration, particulièrement chez les sociologues. Encore une fois à Chicago, et ici la présence du professeur Ernest Burgess est capitale. Le troisième moment correspond à une période de professionnalisation dans le champ sociologique. Et en fait, ce qui permet le mieux de rendre raison de l'histoire du développement du discours actuariel aux États-Unis, c'est vraiment une sociologie de la profession, de la sociologie elle-même. Et le quatrième moment, qui commence à partir des années 1960, correspond à la période de la dominance de l'actuariel. Donc la pratique actuarielle s'envole à cette époque et colonise le terrain pénal. Dans un second temps, j'aimerais réfléchir trois thèmes. À travers ces différentes périodes, ce qui a motivé la quête, c'était certains désirs communs aux différentes disciplines. Le désir de connaître le criminel, l'attrait de catégoriser et l'envie d'assurer. Ce sont trois thèmes que nous pourrions regrouper sous ce concept de désir de certitude ou de scientificité face à un manque de confiance chez les juristes et les spécialistes du droit. Et dans cette seconde partie, donc, j'aimerais revenir sur ces thèmes. Alors, commençons donc à la fin du 19e, au début du 20e. Professeur Petit a très bien exposé cet effort à Chicago, né avec la conférence sur Criminal Law and Criminology, qui a vraiment commencé tout un mouvement aux États-Unis, qui a un institut, une revue très importante qui continue encore aujourd'hui à Northwestern. Mais alors, et ce qui est important, et professeur Alperin nous en a parlé aussi, c'était donc cette ambivalence. Et il faut souligner cette ambivalence, parce qu'il y a un certain paradoxe. Et c'est qu'à cette époque, le désir de prédire le comportement humain dans le contexte pénal a vraiment découlé d'une aspiration à individualiser la peine. N'est-ce pas? Donc c'était un mouvement moderne, un mouvement, on pourrait dire, humanitaire, un désir de vraiment individualiser les sentences pour chaque personne. Bien sûr, sur le vieux continent, Raymond Saleh, que vous connaissez bien, publie son ouvrage en 1898, un texte qui prônait, comme le titre l'indique, l'individualisation de la peine. On constate le même développement dans la pénalité britannique au début du XXe siècle. Mais ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que l'œuvre de Saleh a donc été traduite en anglais, et c'est Roscoe Pound, en effet, qui a écrit l'introduction à la traduction américaine, qui paraît en 1911. Et lui aussi, Pound, plaidait pour cette individualisation de la peine aux États-Unis. Selon ses propres mots, ce à quoi nous devons parvenir, donc, dans le droit pénal moderne, est un système d'individualisation. Et c'est précisément cet objectif que se sont donnés les professeurs de droit pénal dans ce mouvement. Freund, Pound et bien sûr Wigmore. Et ce tournant vers l'individualisation reposait sur le progrès des statistiques et l'impression croissante de pouvoir prédire le comportement humain. Comme Ian Hacking le démontre bien dans The Taming of Chance, les lois de la probabilité avaient largement supplanté les lois de la nature dans le discours occidental à la fin du XIXe siècle, surtout dans le domaine des crimes et de la peine. Et il y avait donc, et là encore paradoxe, l'ascension du raisonnement de probabilité a permis d'exercer plus de contrôle sur l'individu. Ça a permis de discipliner, ou comme le dit Nicholas Rose, de maîtriser l'incertitude en la rendant disciplinée et docile. Les lois du hasard, donc, ont permis une meilleure maîtrise du comportement individuel. Bon, passons, parce que on a bien parlé de cette première période, passons donc au second moment, les années 1920. Alors, dans le domaine juridique, à cette époque-là, c'était l'apogée du réalisme. Mais dans le domaine sociologique américain, c'était le tout début de la prédiction rigoureuse et scientifique. Les sociologues, les scientifiques avaient soif de prédire. Ernest Burgess, sociologue renommé à l'Université de Chicago, a été un des principaux moteurs de ce passage à la prédiction. À l'époque, Burgess émergeait tout juste de l'ombre de son éminent collègue et collaborateur, Robert Park, et du paradigme écologique de Chicago, l'école sociologique de Chicago. C'est un paradigme écologique. Mais s'appuyant sur la nouvelle rigueur statistique de la sociologie, Burgess a contribué à recentrer l'étude de la sociologie sur l'individu. Et il a été une figure majeure dans la transformation structurelle qui a eu lieu dans la discipline pendant les années 1930 et 1940. En 1925, Ernest Burgess et deux professeurs de droit ont construit des recherches approfondies sur les procédures de mise en liberté conditionnelle en Illinois. Et c'est dans ce contexte que Burgess a fait une étude sur 3000 détenus remis en liberté. Et ce qu'il cherchait à savoir, c'est précisément s'il y avait une relation statistique entre une remise en liberté réussie, définie par l'absence de violation des conditions de la libération conditionnelle, et une vingtaine de variables indépendantes. L'idée de départ était de voir quels facteurs étaient associés à la probabilité d'une mise en liberté réussie. Les 21 variables comprenaient des informations telles que la race et la nationalité du père, du détenu, le profil social, l'âge mental, le type de personnalité, le prognostic psychiatrique, en plus des circonstances du crime et du casier judiciaire préalable. Et Burgess conclut, d'après cette étude, que des facteurs identifiables pouvaient être employés afin de donner de meilleures prévisions au comité de libération conditionnelle. Il écrivait « Donc, il n'y a aucun doute que la possibilité de déterminer les facteurs à l'origine du succès ou de l'échec d'un homme en liberté conditionnelle, il n'y a aucun doute, le comportement humain semble être sujet à un certain degré de prévisibilité. » Dans son rapport, Burgess a donc recommandé que la décision de remise en liberté repose sur une analyse multifactorielle employant ces variables. Et il recommandait de manière pressante l'utilisation de ces tableaux actuariels. Alors, le troisième moment, c'est les années 1930 et les années 1940. Et ce qui est apparu n'était pas tant une pratique actuarielle, mais plutôt toute une série de recherches. Il faut donc comprendre ça à travers le prisme d'une sociologie de la profession. Dans les quelques décennies qui ont suivi, avec Burgess à la barre, la plupart des grands sociologues américains se sont fait les dents sur les instruments de prédiction. La plupart d'entre eux ont commencé en tant que doctorants à l'Université de Chicago, bien sûr, travaillant sous la direction de Burgess lui-même. Le grand sociologue héritier de Burgess, Albert Rees, a écrit sa thèse sur la méthode Burgess de prédiction, encore une fois dans le contexte de la liberté conditionnelle. Sa thèse, intitulée « The Accuracy, Efficiency and Validity of a Prediction Instrument », était une analyse statistique des instruments de prédiction. Lloyd Olin, sociologue réputé, plus tard professeur à Harvard Law School, a lui aussi mis à jour la méthode Burgess pour sa thèse et a publié le premier manuel de prévision pour la liberté conditionnelle. Daniel Glazer, un autre éminent sociologue qui finira à l'Université de Southern California, a aussi écrit sa thèse quelques années plus tard sous la direction à la fois de Burgess et de Rees. Le titre est « A Reformulation and Testing of Parole Prediction Factors ». Beaucoup d'autres ont écrit leur thèse sur ce sujet, thèse en 1931 de George Volt, Prediction Methods and Parole, 1935, Churchill Van Vechten, A Study of Success and Failure of Delinquents, lui sous la direction de Burgess et de Edwin Sutherland, un autre grand criminologue, 1935, Ferris Lawn, A Technique for Developing Criteria of Parolability, Charlotte Ruth Klein, George Lundy, A Study of Parole Prediction. Bref, la prédiction, particulièrement dans le contexte de la libération conditionnelle, était devenue un moteur de production scientifique, sujet de thèse, de conférences, d'articles savants et de monographies. Quatrième moment, la pratique actuarielle. Alors, la mise en pratique des méthodes actuarielles a été un processus beaucoup plus lent. Il y a eu une première mise en œuvre dans l'Illinois dans les années 1930, un coup de chance. Un assistant de recherche du professeur Burgess a été nommé membre du Board of Parole et avec son appui, l'Assemblée de Illinois a voté en 1933 l'embauche d'actuaires en fait, pour faire les prévisions dans les cas de tous les hommes en attente de liberté conditionnelle. Donc Ferris Lawn, jeune doctorant Sue Burgess, est embauché son titre officiel à la prison d'État d'Illinois, c'était sociologue et actuaire. Embauché en 1933. Et c'était donc le premier à officiellement mettre en œuvre la méthode de prédiction Burgess. Et ce qu'il préparait, ça s'appelait un prognasio, un terme très scientifique, où ils essayaient de calculer la probabilité de succès de chaque individu qui avait la possibilité d'être libéré conditionnellement. Bon, ça, c'était un coup de chance en Illinois, mais ce n'était pas avant les années 1960, environ 30 ans plus tard, qu'un deuxième État a pris la décision de recourir à ces nouveaux instruments de prédiction. Au début des années 1970, les autorités fédérales ont développé et mis en application le Salient Factor Score, un outil de prédiction allégé avec 7 facteurs. La Californie a adopté un outil à cette époque-là, entraînant dans son sillage un raz-de-marée d'adoption d'outils actuariels à la fin des années 1980 et 1990. En 2004, 28 des États utilisaient un outil d'évaluation du risque dans leur prise de décision, ce qui est assez remarquable parce qu'à la même époque, il y a un mouvement d'éliminer dans la majorité des États la libération conditionnelle, ce qui fait qu'en fait, 72% des États aujourd'hui qui utilisent la libération conditionnelle utilisent un outil actuariel. Très précis. On pourra en parler plus tard cet après-midi peut-être, mais c'est un calcul très simple et très précis où vous avez un numéro de 1 à 7 et puis étant donné ce numéro-là, une certaine probabilité d'échouer ou de réussir en libération conditionnelle. Donc la prédiction dans le contexte de la libération conditionnelle a ensuite agi comme précurseur et a donné naissance à toute une série de techniques de prévision dans d'autres domaines, la condamnation, la réglementation, et on voit ça à travers le pénal aux États-Unis aujourd'hui. Donc j'aimerais rapidement, avec le temps qui me reste, revenir aux 3 thèmes que j'ai évoqués au début de la séance. En premier lieu, ce désir de compter, de prévoir, de savoir, ce désir, selon les termes de Hacking, d'apprivoiser le hasard, to tame chance, de maîtriser l'avenir. C'est précisément ce désir qui a inspiré le tournant vers l'individualisation de la peine, mais c'est aussi ce qui a motivé Ernst Freund, Roscoe Pound, Dean Wigmore, à exiger une nouvelle vision du pénal fondée sur la science. Et c'est ce qui a fait passer la discipline juridique dans les mains des sociologues, des statisticiens et des scientifiques. C'est ce désir de certitude à une époque, dans un climat de réalisme et donc d'indétermination, qui a fini par déplacer le formalisme juridique. On retrouve bien cette volonté de savoir dans les écrits des sociologues. Voici Burgess, encore une fois. « Prédire est le but des sciences sociales » tout comme c'est celui des sciences physiques. Prédire est non seulement faisable, son étudiant Ferris Lawn ajouterait, mais nécessaire. Prédire la probabilité du succès d'une remise en liberté conditionnelle est une nécessité qui va de soi. Donc tous ces chercheurs, que ce soit Burgess Lawn ou Sheldon and Eleanor Gluck, très important dans cette histoire, se considéraient comme faisant partie d'un mouvement progressif tendant vers la vérité scientifique, vers la science exacte. Il parlait d'une méthode plus scientifique, il parlait d'exécuter et concevoir les choses scientifiquement. Il parlait d'un guide scientifique pour la condamnation. C'était un appel irrésistible et ça a généré un élan d'enthousiasme qui était vraiment contagieux à cette époque-là. Alors, deuxième thème, c'est le désir de catégoriser, de connaître le criminel, et donc de le faire rentrer dans une certaine boîte, de le placer sous une certaine rubrique. Il est souvent surprenant de jeter un œil aux catégories qui ont été développées à cette époque-là. Burgess, par exemple, utilisait des termes comme « the ne'er-do-well », ça veut dire « le vaurien ». C'était donc une catégorie. « Le garçon de la campagne », »,« the farmer boy », »,« le gangster », l'alcoolique, c'était ça les catégories qu'il utilisait pour identifier les individus, pour les mettre dans un statut social. Et ces catégories-là ont été recyclées dans les décennies qui suivirent, toujours critiquées, parce que trop subjectives, mais toujours redéployées à l'envi par la suite. George Vold, par exemple, avait critiqué abondamment ces catégories de Burgess avant de finalement adopter les mêmes catégories pour sa propre recherche. Le bon à rien fit sa réapparition, cette fois à côté du jeune irresponsable, du faible, du caïd de village. Il avait 9 catégories, Vold. Le citoyen responsable et honnête, l'ouvrier respecté, le jeune irresponsable, l'immigré fraîchement arrivé, le faible de caractère, le bon à rien, le travailleur de passage, le caïd du village et le dur à cuir urbain. C'est vraiment, il y a vraiment, c'est assez remarquable quand on relit ça. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il n'avait pas besoin de définir ces termes. Donc, dans le rapport de Burgess, un rapport de 300 pages sur la libération conditionnelle, l'utilisation de ces catégories, il utilisait ces catégories, le ne'er-do-well, le vaurien. Il n'avait pas, en 1928, besoin même de définir ce terme. Sur 300 pages, ce n'est pas défini. On savait ce que c'était. Parce qu'il y avait vraiment ce désir de catégoriser une compréhension sur ce que ces catégories représentaient. Bon, troisièmement, le désir d'assurer. Alors, c'est bien sûr François Ewald, dans son livre « L'État-providence », qui a discerné ce déplacement subtil de nos manières de penser, de notre rationalité du 19e au 20e siècle. Le 19 étant marqué par la responsabilité individuelle, ainsi les accidents étaient réfléchis sous le mode de la responsabilité civile et de la faute. Le 20e a vu l'émergence de la compensation suite à un accident de travail et donc le prisme du risque et de la probabilité de la blessure. Le risque est devenu, comme vous le savez bien aujourd'hui, une catégorie centrale pour toute réflexion sur la justice actuarielle. Même avant Ewald, Robert Castel avait publié son ouvrage en 1981 sur la gestion des risques, et bien sûr Michel Foucault a prononcé ici même une série de leçons sur le risque et la gouvernementalité en 1978-1979. Eh bien, cette catégorie de risque a très certainement joué un rôle majeur au début du XXe siècle. Il y avait un fort désir d'imiter le mode dominant de l'actuariat porté par le monde de l'assurance. On l'entend en 1928 chez Ernest Burgess, qui a souligné ce lien. Aussi en 1935, voici Van Vechten. L'idée d'évaluer la probabilité d'un événement sur la base du passé n'est pas nouvelle. L'assurance, qui s'appuie sur le calcul actuariel et dont la précision est plus ou moins grande, existe au moins depuis l'Empire romain. Voici Walter Argo, écrivant aussi en 1935. Cette idée n'est ni complètement nouvelle, ni spécifique à notre champ, puisque les compagnies d'assurance ont utilisé des mécanismes similaires pour calculer l'espérance de vie d'un individu à partir des données collectées par d'autres placées dans des conditions semblables. La comparaison avec le mode de l'assurance servait en partie à normaliser la recherche et à rendre ses applications courantes. Et en même temps, dans un certain sens, à déresponsabiliser les responsables. En bonne partie, l'objectif de l'analogie était d'apaiser, de rassurer. On l'entend très bien, ça, par exemple, dans le Handbook for New Parole Members, donc un manuel destiné aux gens qui allaient libérer les personnes de manière conditionnelle. Je vais lire en anglais parce que j'ai essayé de traduire, mais ça ne sort pas aussi bien. Every parole board member is concerned about public safety. The thing that keeps parole board members awake at night is the fear that they will release someone and that person will commit a serious crime. Validated actuarial risk assessment tools can significantly increase your ability to assess risk more accurately. The tradition of good risk assessment tools goes back a long way. Indeed, the technology grows from the same techniques that have been used with great success in the insurance industry for years, and in many other industries that are placing increased focus on empirical risk analysis. When you buy an insurance policy, your rates are determined by empirical, verifiable factors, age, health history, occupation, smoking status, that have been carefully researched, not on what your agent thinks when he interviews you. In this day and age, making parole decisions without benefit of a good research-based risk assessment instrument clearly falls short of accepted best practice. Donc, ce qu'on voit là, omniprésente, c'est cette analogie avec le monde de l'assurance qui était destinée donc à apaiser nos angoisses. Bon, alors, il est important de souligner en conclusion que ce qui a déclenché cette conception actuarielle de la juste peine dans le XXe siècle, qui nous a vu passer de notions de réhabilitation aux notions d'évaluation de risque, qui nous a vu passer de la correction à l'incapacitation, c'est précisément la production d'un savoir technique. Cette transformation représente un parfait exemple de l'adaptation de la justice au développement du savoir technique, un exemple de la théorie du droit qui suit le progrès technique. Et ce qui est assez remarquable, c'est que l'impulsion de départ, le déclencheur, l'élément stimulant, se trouvait hors du système juridique. Il est venu de la sociologie et du désir positiviste visant à étudier le comportement humain de manière plus scientifique, du désir de contrôler l'homme comme on contrôle la nature, du désir de connaître scientifiquement le criminel. Mais bien sûr, le tournant actuariel ne se limite pas simplement à une question de connaissances techniques. Ce savoir scientifique devait être semé dans de bons terreaux, dans une culture juridique spécifique. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas seulement s'intéresser aux avances sociologiques, mais aussi prendre en compte les sensibilités politiques, sociales et juridiques qui ont marqué l'époque. Et ici, c'est le contexte du réalisme, du American Legal Realism, et de la jurisprudence sociologique, et donc du désir de résister au formalisme classique qui a créé ce tournant vers l'actuariel. Le mouvement de Roscoe Pound, Sociological Jurisprudence, allait triompher éventuellement sous un autre nom, ce que nous appelons aujourd'hui la justice actuarielle. De la même manière du reste que le Law and Economics a triomphé aux États-Unis, tous deux en réaction, je pense, à l'instabilité, à l'indétermination de la pensée réaliste. Tous deux parce qu'il est si difficile de vivre l'incertitude. En fin de compte, la justice actuarielle, c'est bel et bien la colonisation du champ juridique par les sciences sociales, le doublage du droit par la science. Le droit américain, déstabilisé en tant que discipline par une critique réaliste, s'est tourné vers la prédiction pour dompter l'indétermination. Et c'est ainsi qu'à l'heure actuelle, nous sommes aujourd'hui, aux États-Unis, esclaves des probabilités. Je vous remercie.